C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 17 janvier et aujourd'hui un thème qui fait parler de lui depuis quelques années, l'intelligence artificielle. Que savons-nous vraiment de l'IA? À quoi est-ce que cela sert? Y a-t-il des risques, des limites? Peut-elle apporter à la société? Pour y répondre, nous recevons Grégory Bonnet, maître de conférence à l'université de Caen et membre de l'équipe MAD du laboratoire grec qui se penche sur la question de ces innovations. Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. On commence avec un sondage qui a fait couler beaucoup d'encre. Les jeunes de 11 à 24 ans croient de moins en moins à la science. Ils sont plus enclins à adhérer aux théories complotistes, une génération décrite comme « toc-toc ». C'est ce que résume cette étude de l'IFOP sortie jeudi 12 janvier. 2000 jeunes dans toute la France ont été interrogés sur différentes questions et sur différents thèmes. Ainsi, 16% estiment que la Terre est plate, 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, la moitié estiment que l'astrologie est une science. Pour résumer, seuls 33% des jeunes estiment que la science apporte plus de bien que de mal, 17% plus de mal que de bien et 41% pensent que la science fait autant de mal que de bien. Ces chiffres inquiétants, voire dramatiques, sont cependant vivement critiqués, voire remis en cause. D'abord, l'échantillon de personnes dans cette étude est faible, surtout concernant les 18-24 ans, seulement 942 jeunes. Autre point, le sondage n'est clairement pas objectif et part du principe même que les jeunes croient moins à la science. Les questions sont orientées, voire extrêmes, comme « Peut-on avorter sans risque avec des produits à base de plantes ? Oui ou non ?» En Ukraine, est-ce que le massacre de civils à Boutcha était une mise en scène des autorités ukrainiennes ? Cette étude a plus un but politique qu'un apport réel d'informations. L'objectif est de stigmatiser la jeunesse qui est au quotidien confrontée à la désinformation à travers les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou encore TikTok. Bref, du recul est nécessaire vis-à-vis de cette étude. Au jugement, on préfère l'accompagnement, notamment grâce à la vulgarisation sur C'est pas faux. Un petit avant-goût de l'interview qui nous attend dans un instant. L'intelligence artificielle va aider pour la première fois à faire un diagnostic du cancer du sein. L'Institut Curie aurait utilisé cet outil pour détecter différentes formes de cancer et leur gravité. L'IA a été entraînée sur des centaines de milliers d'images avec pour objectif d'aider les pathologistes à mieux détecter certains cas. L'avantage de l'intelligence artificielle est qu'elle ne se fatigue jamais. Ainsi, les lames de prélèvement peuvent être scannées et analysées toute la nuit pour que le pathologiste, le matin, soit soulagé d'une partie du travail. Après l'étude d'une vingtaine voire trentaine de cas par jour, les professionnels de santé peuvent montrer des signes de fatigue et c'est alors que l'IA rentre en jeu. Pour l'instant, l'outil permet de faire le diagnostic du cancer du sein, de la prostate et de l'estomac. Un événement à ne pas louper ce mois-ci, c'est le retour de la comète C-2022-E3, après 50 000 ans d'absence. Elle a été découverte en mars 2022 et pourra être observée dans les jours à venir. Alors prenez vos jumelles, on vous explique pourquoi cette comète est particulière et comment l'observer. D'abord, cet astre de glace est spécial parce qu'il vient du fin fond du système solaire. Les planètes tournent en orbite autour du Soleil de façon plutôt ronde, tandis que les comètes tournent de façon ovale, très serrée, ce qui veut dire qu'elles passent très proche du Soleil pour se rendre aux confins du système solaire, puis revenir proche de l'étoile, et ainsi de suite. Ensuite, cet événement est spécial simplement par sa beauté. Les comètes laissent en effet des traînées de lumière qu'on appelle des queues, et ces astres en possèdent deux, l'une composée de gaz et l'autre de plasma. Lorsqu'une comète passe près du Soleil, la glace qu'elle contient se sublime, passe d'un état solide à l'état gazeux et laisse apparaître une traînée de lumière. Ces événements sont extrêmement rares et le prochain passage de comète se fera dans une cinquantaine d'années, alors n'hésitez pas à rester éveillé quelques minutes de plus la nuit pour observer ce phénomène. Pour cela, vous aurez besoin sûrement d'une paire de jumelles ou d'un télescope pour les plus passionnés. Il faudra attendre une nuit pas trop éclairée par la lune ni par la pollution lumineuse des villes. Les dates idéales sont le 24 janvier, le 3 février ou vers mi-février. Reste à prier aussi pour que la météo soit clémente et ne laisse pas les nuages prendre trop de place, auquel cas C-2022-E3 ne se révélera pas sans s'arrêter évidemment. On continue avec une information importante pour l'environnement, le trou dans la couche d'ozone se résorbe peu à peu. Une bonne nouvelle annoncée par l'ONU la semaine dernière, le mardi 10 janvier. Bonne nouvelle parce que cette couche d'ozone qui se situe à 20 km d'altitude nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Ce trou s'était formé dans les années 80 à cause de la pollution humaine et en particulier des émissions de chlorofluorocarbures, le CFC, notamment par les réfrigérateurs. Un consensus avait été retrouvé en 1987, le protocole de Montréal, où 195 pays se donnaient pour objectif de réduire fortement la quantité de CFC dans l'atmosphère. Selon l'ONU, si les efforts continuent, la couche d'ozone pourrait retrouver son état d'antan d'ici 4 décennies, environ 2066. Et pour terminer ces infos sciences de la semaine, une étude qui devrait ravir les plus fêtards d'entre vous, les abus festifs seraient bons pour la santé. Alors les recherches ont mis en avant trois conditions pour passer une bonne fiesta, célébrer un événement festif pour quelqu'un, qu'il y ait consommation de nourriture ou de boisson, et que cette fête regroupe plusieurs personnes. Pour déterminer ces conditions, des chercheurs américains ont soumis des questionnaires et des tests à plusieurs milliers de personnes. Si ces trois conditions étaient présentes, alors la personne durant la fête ressentait ce que les psychologues appellent le soutien social perçu. En clair, que les autres seront là pour nous dans les bons et les mauvais moments. Mais surtout, ce soutien social perçu a des effets plus que positifs sur le reste de notre vie. Diminution des taux de mortalité, diminution des taux d'anxiété, de stress, réduction de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, un sommeil de qualité, bref, à une meilleure santé mentale. Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas mis en balance les bienfaits de la fête avec les abus, comme l'alcool ou la drogue, mais cela permet de mettre en avant l'importance, dans certains cas, de se regrouper, comme dans les maisons de retraite par exemple, avec un gâteau, des jus de fruits et le besoin de vivre ensemble. Voilà, les infos scientifiques de la semaine, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, place à notre invité.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
L'intelligence artificielle, véritable révolution pour certains, danger dans le futur pour d'autres, mais connaît-on vraiment les IA? Comment est-ce que cela fonctionne? Y a-t-il des risques, des limites? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Grégory Bonnet, maître de conférence à l'Université de Caen et chercheur au laboratoire du grec au sein de l'équipe MAD. Bonjour Grégory Bonnet.
Bonjour, bonjour.
Alors en ce moment, on entend énormément parler d'intelligence artificielle, mais ça me semble important de revenir un peu sur la définition du sujet. Quand on entend parler d'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce que c'est finalement?
Alors ça englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si on regarde un petit peu ce qu'on dit de la section des enseignants-chercheurs en informatique, à peu près 30% des chercheurs travaillent en intelligence artificielle. Donc ça regroupe des choses qui sont, on va dire, dans l'air du temps et mises en avant dans les médias. Je pense particulièrement à l'apprentissage par réseau de neurones, l'apprentissage profond et ce genre de choses. Mais c'est aussi des gens qui travaillent sur du raisonnement, de la logique, des problèmes d'optimisation divers et variés avec d'autres types de modèles. Donc c'est vraiment un domaine très large de l'informatique.
Il y a différentes formes d'intelligence artificielle ?
Oui, alors généralement, on va considérer d'un côté des systèmes dans lesquels en fait, on va donner un modèle à la machine, on va lui donner un certain nombre d'informations et on va essayer de trouver des algorithmes efficaces pour se servir de ces informations et prendre de bonnes décisions. Et puis d'un autre côté, on va avoir des approches dans lesquelles on ne donne pas de modèle, mais on va juste donner des petits exemples éparses et on va tenter d'apprendre le modèle.
La différence entre machine learning et deep learning, c'est ça ?
Alors la différence entre apprentissage automatique,
okay,
qui recouvre à la fois du machine learning ou du deep learning, c'est pas la même chose, mais c'est une spécialité, et puis des approches qu'on qualifie peut-être plutôt plus traditionnelles. On s'intéresse plutôt à des aspects vraiment algorithmiques.
Quelles sont les différences entre typiquement Siri, Alexa, Google, qu'on a l'impression qu'elle répond à toutes nos questions?
Alors, je ne pense pas qu'elle réponde forcément à toutes les questions. Alors après, derrière, généralement, c'est toutes des machines un peu du même type, qui se fondent sur ces modèles d'apprentissage, puisque ces entreprises possèdent un grand nombre de données textuelles, et elles s'en servent en fait comme base d'apprentissage. Et donc c'est surtout en fait des chatbots, en fait, des machines qui sont là pour analyser du texte qui vient de questions, et puis tenter d'y répondre en collant le plus à partir des données qu'elles possèdent.
Est-ce qu'on a une date précise de l'apparition, en tout cas des recherches sur l'IA ou de l'IA en tant que telle?
Alors, l'IA de mémoire, si je me trompe pas, le terme commence à apparaître en 1953. Il y a une grande conférence qui se tient à Dartmouth aux États-Unis. Et des chercheurs en informatique se mettent d'accord pour travailler sur un programme qu'ils vont baptiser intelligence artificielle, qui a pour objectif d'essayer de modéliser, de répliquer les facultés cognitives des êtres humains à haut niveau, c'est-à-dire des facultés de raisonnement, de prise de décision, de perception, de compréhension de la langue et aussi de capacité de planification stratégique et parmi lesquelles on va trouver les premières questions autour de comment jouer aux échecs, comment planifier des actions, déplacer un robot, voilà, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose d'assez ancien à l'échelle de l'histoire de l'informatique, entendons-nous.
Et pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle elle a tant d'importance? On en entend tout le temps parler.
En fait, c'est surtout qu'il y a eu un changement dans la quantité de données qui sont à notre disposition, un changement aussi dans la puissance de calcul à notre disposition, et des modèles d'apprentissage automatique, typiquement des modèles par réseau de neurones, qui sont relativement anciens. C'est des choses qui sont travaillées dès les années 60, mais qui n'étaient pas très efficaces en général. Eh bien, ont pu s'exprimer parce qu'on avait beaucoup plus de données et surtout une puissance de calcul beaucoup plus importante pour faire fonctionner ces très grands réseaux.
On a commencé à en parler, mais comment est-ce qu'on fait pour entraîner une intelligence artificielle? Est-ce qu'on lui fait passer des épreuves?
Dans un sens, hein, vous avez plusieurs manières d'entraîner un système d'intelligence artificielle. La première consiste en fait à donner en entrée à la machine des exemples de ce qu'on veut lui faire apprendre. Et ces exemples sont ce qu'on appelle étiquetés. On va pouvoir indiquer à quelle catégorie d'informations se rattache cet exemple ou à quelle catégorie de décision il faut associer l'exemple. Et donc on va utiliser ensuite un algorithme qui va essayer de trouver des régularités dans ces données, en déduire et en construire des règles qui vont lui permettre d'associer des nouvelles données à une catégorie de décision. Donc ça, c'est la première approche. Et puis, on a aussi un peu une approche qu'on appelle apprentissage par renforcement, dans lequel, en fait, on va plonger directement le système dans l'environnement où il doit agir. Et par un jeu d'essais et erreurs, le système va essayer des choses, prendre des décisions un petit peu au hasard, observer le résultat de ces décisions, et de la même manière que précédemment, essayer d'apprendre le modèle ou les régularités qui se trouvent derrière.
Est-ce qu'on peut lui imposer des limites à ces épreuves? Est-ce qu'on peut imposer des limites à ces épreuves, ou en tout cas des limites à l'intelligence artificielle?
Des limites, il y a forcément une limite. La limite, elle existe à l'intérieur des données que vous fournissez en entrée, de l'environnement dans lequel vous plongez votre machine. Finalement, la machine n'apprend que ce qu'on veut bien lui permettre d'apprendre, au sens où ce qui est contenu dans les données en termes de corrélation ou de régularité. Alors évidemment, quand nous-mêmes on ne connaît pas a priori les régularités qui se trouvent dans ces données-là, on peut paraître surpris du résultat de l'apprentissage, mais c'est uniquement lié en fait à la masse d'informations qui est fournie initialement.
Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des objets dans notre quotidien où on ne se rend même pas compte qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans?
Oh oui, de nombreux objets. Alors des objets soit concrets ou des objets abstraits. Quand je parle d'objets concrets, on peut tout à fait penser à un certain nombre de systèmes automatisés dans des usines qui utilisent des techniques de planification ou de décision assez classiques, sans forme d'apprentissage. Dans votre filtre anti-spam sur votre boîte mail, derrière, il y a des mécanismes d'apprentissage, un certain nombre de mécanismes de frappe automatique ou de reconnaissance d'image. Voilà comment vous donner une photo, on peut détourer ou trouver automatiquement des visages et puis les associer à des personnes. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses qu'on va retrouver. Voilà, de là à dire que dans notre vie de tous les jours, il y a de l'intelligence artificielle, je pense que c'est peut-être un propos un petit peu à modérer, mais en tout cas, un certain nombre d'outils, oui, c'est sûr, en sont bardés.
Dans notre quotidien, justement, récemment, il y a eu des applications qui sont sorties, qui ont fait le buzz, comme on dit chez les jeunes. ChatGPT, par exemple, donc c'est une intelligence artificielle qui est développée par l'entreprise OpenAI, qui peut répondre à quasiment toutes nos questions, nous faire une lettre de motivation, un programme de nutrition, écrire des articles ou faire les devoirs de maths des étudiants. Ça pose la question du risque des IA. Est-ce qu'elle ne va pas remplacer beaucoup de métiers dans le futur?
Alors, il y a quand même une chose à faire attention, c'est que d'un côté, effectivement, l'IA répond, mais la question, c'est toujours, c'est qu'est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle répond correctement? Et ça, c'est une première question sur laquelle on n'a pas forcément de bonne réponse. Et même, on sait qu'il y a des choses sur lesquelles elle ne répond pas correctement. Je vais vous donner un exemple. Alors, pour ma part, ce n'est pas dans mon domaine de recherche, je précise quand même là-dessus. Et puis deux, je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais j'ai un de mes collègues qui s'est amusé à lui demander le logarithme de 53. question
que tout le monde connaît.
Que tout le monde connaît, mais en tout cas qu'une calculatrice peut connaître ou peut calculer. ChatGPT a bien répondu sur les premiers chiffres et les premières décimales, et puis à partir et derrière, ça a été une séquence de chiffres, voilà, qui n'avait aucun sens et qui ne correspondait pas en fait à la réalité. Parce que le modèle de ChatGPT derrière, c'est un modèle de génération de texte avant tout. C'est pas quelque chose qui est fait pour répondre à des questions. C'est fait pour générer du texte. Et donc du coup, si on se trompe d'utilisation, eh bien du coup, on peut évidemment être fourvoyé en fait par ce que fait la machine.
Ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle peut se tromper, mais est-ce qu'elle peut aussi mentir ?
Bah, mentir, peut-être pas au sens mentir sciemment, mais elle peut effectivement vous donner des réponses qui ne sont pas correctes ou qui sont incorrectes, en tout cas, ou parcellaires, tout en ne vous expliquant pas pourquoi est-ce qu'elle serait parcellaire. Voilà. Et ça, c'est peut-être un risque de faire une confiance aveugle dans la machine en se disant qu'elle a été bien conçue et qu'elle donnera forcément toujours les bonnes réponses. Ce qui n'est pas le cas en fait en général.
Si on parle un peu des bénéfices, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre de répondre à des enjeux importants comme, je sais pas, le réchauffement climatique ?
Bah, disons que, alors, il y a plusieurs choses, hein. Encore une fois, ça dépend des techniques que l'on considère, ça dépend des types de problèmes que l'on attaque. Dans le domaine de l'apprentissage, quand on fait de l'apprentissage, l'objectif, c'est d'arriver à construire un modèle. C'est-à-dire, c'est trouver ces fameuses régularités dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que, a priori, on pourrait avoir un problème sur lequel on a des données et on ne connaît pas les régularités, ou les données sont trop importantes pour qu'on puisse extraire à la main ou avec le travail humain des régularités. Et donc, si l'objectif, c'est de trouver ces choses-là, alors effectivement, des techniques d'apprentissage sont assez intéressantes pour donner au moins en première approximation des régularités et puis après permettre à des chercheurs, des scientifiques voilà, de travailler sur le sujet et puis après d'essayer de les dépiauter. Mais cela ne vous expliquera pas les régularités. Cela ne fait que les découvrir, les mettre en lumière. Les mécanismes du pourquoi et du comment, ils ne sont peut-être pas explicitement contenus dans les données. Il y a peut-être d'autres travaux à faire. Donc il y a des choses qu'on peut faire comme ça. Et puis de l'autre côté, on a aussi des problèmes de planification, de décision, d'optimisation, pour lesquels on a des modèles plutôt corrects, ou en tout cas qu'on peut assez bien approximer à la main la réalité. Et après, on veut pouvoir trouver des bonnes décisions à prendre dans ces situations-là. Et du coup, là, il y a des algorithmes qui peuvent être aussi tout à fait pertinents. Mais encore une fois, faut-il avoir les modèles qui vont bien. Alors ça, c'est une chose, ça permet de trouver des techniques, des plans, des modèles. Mais après, un certain nombre de grands enjeux ou de grands défis dépassent largement ce cadre-là. Enfin, c'est avant tout des questions d'ordre politique. Et ça, ce n'est pas une machine ou ce n'est pas un algorithme en fait qui permet vraiment d'y répondre.
Ça veut dire que l'intelligence artificielle, ça reste toujours un outil et ne sera jamais totalement autonome. Il y aura toujours la main de l'homme derrière.
Ah, je ne sais pas si je peux me permettre de dire jamais en l'occurrence, mais oui, il est bien évident qu'à l'heure actuelle, ce sont des outils, et à ma connaissance, il n'y a aucun indice fondamental ou théorique qui laisse penser qu'on puisse avoir des machines capables de générer in fine leur propre but ou leurs propres objectifs indépendamment de toute direction donnée par un concepteur.
C'est un peu ce qu'on a dans les films de science-fiction et tout ça, le fameux scénario où l'intelligence artificielle décide d'être totalement autonome.
Oui, ouais, effectivement, on retrouve ça, c'est un bon thème pour faire une bonne histoire. Mais en fait, en pratique, quand on conçoit un système, on va toujours lui donner un objectif, que ce soit une description précise de l'objectif à atteindre, ou des descriptions abstraites, quand on dit à la machine, voilà par exemple un jeu de données, voilà comment je les étiquette, essaye de trouver des corrélations entre ces étiquettes et puis ces données, et en fait, on est déjà en train de lui donner un objectif concret. Et cet objectif, il est là, et la machine ne peut pas vraiment dépasser ce cadre-là.
Avant de continuer cette interview très intéressante, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Brain Story, Seasons, sur Radio Phoenix. Et on est de retour sur Radio Phoenix, c'était Brain Story Seasons, et vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux. On continue notre discussion avec Grégory Bonnet, chercheur au sein de l'équipe MAD du GREC, qui travaille notamment sur l'intelligence artificielle. J'aimerais qu'on aborde la question de l'éthique, un sujet sur lequel portent vos recherches. Pourquoi est-ce que l'on fait des recherches éthiques sur l'intelligence artificielle ?
En fait, vous l'avez dit un petit peu au début, hein, finalement, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui utilisent ou s'intéressent ou cherchent à utiliser des techniques d'IA, et de plus en plus ces applications ont pour vocation à venir s'insérer dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, et donc du coup permettre de prendre des décisions qui vont d'une manière ou d'une autre impacter des êtres humains, avoir une influence sur eux. Que ce soit des décisions relativement simples, comment concevoir un emploi du temps pour les étudiants, ça va quand même avoir un impact sur eux, à des décisions beaucoup plus importantes, qui peuvent être des questions d'ordre financier. Doit-on ou non accorder un prêt ou un crédit à une personne ? des questions de justice, voilà, même si on est encore très très loin de ça et les gens de manière raisonnable, en tout cas dans un certain nombre de pays, voilà, ne poussent pas dans cette direction, mais voilà, on a quelques pays dans lesquels on cherche à automatiser, par exemple, les prises de décision judiciaire, et ça peut être relativement problématique, sachant les problèmes que l'on peut avoir ou les biais qu'il peut y avoir dans des données d'entraînement ou dans certains algorithmes. Et donc du coup, la question de l'éthique, en fait, elle devient vraiment, vraiment importante à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs manières de traiter la question. Il y a la question de comment concevoir des systèmes, par exemple, d'apprentissage qui vont être exempts de biais, donc qui vont se servir de données sans doute générées par des êtres humains, mais tout en respectant leur vie privée, par exemple. Ça peut être des choses importantes. Il y a des gens qui vont s'intéresser aux questions d'équité. Comment est-ce qu'on peut trouver des algorithmes de partage de ressources ou de partage de tâches qui soient équitables? Et puis, des gens qui vont aussi s'intéresser à directement introduire des mécanismes de raisonnement et de prise de décision éthique dans des systèmes artificiels pour leur permettre de tenir compte de critères ou de contraintes éthiques dans leurs décisions. Donc c'est un paysage un petit peu vaste, hein, qui est en train de se dessiner. Et donc, du coup, c'est un certain nombre de recherches, voilà, qui sont assez, assez récentes sur le sujet, mais importantes à mon sens.
Et à quel moment on décide que la morale doit rentrer en compte pour les intelligences artificielles? Est-ce qu'il y a des sujets plus que d'autres qui sont choisis?
Alors, des sujets choisis, oui, souvent, vous allez vous retrouver, voilà, les questions de justice. On peut avoir ce jeu, des questions, voilà, d'équité, de respect, de non-discrimination, enfin de non-discrimination de groupes particuliers. Donc voilà, on a ce genre de choses. Et dans toutes les applications dans lesquelles vous avez des décisions qui vont impacter des humains, on se rend compte qu'on a forcément besoin à un moment donné de penser en termes éthiques.
Et depuis quelques années, on a vu par exemple apparaître sur la route des voitures autonomes, quasi autonomes. Est-ce que le gouvernement ou les politiques publiques ont pris des mesures pour réglementer ça dans l'éventualité où une intelligence artificielle est responsable d'un accident?
Alors non, il n'y a pas encore de réglementation à ce sujet-là. Alors effectivement, il y a des lois, il y a des normes existantes. Oui, ce type d'applications peuvent poser un certain nombre de questions éthiques parfois. On en entend beaucoup parler autour du fameux dilemme du trolley. Voilà, on imagine, voilà, qu'on a une voiture autonome un peu folle et que qui est dans une situation d'accidentogène et que quelles que soient les décisions qu'elle va prendre, elle risque d'écraser des gens. La question qui se pose, c'est comme je suis obligé de prendre une décision, quelle personne dois-je écraser? Voilà, donc ça, c'est un peu l'objet un peu théorique, même si en pratique, ce genre de situations sont extrêmement rares et il n'est pas certain qu'on se retrouve vraiment dans un cas de dilemme purement abstrait, ouais, comme on peut le voir en philosophie morale. Mais bon, en tout cas, il y a des gens qui travaillent dessus. Et en termes de réglementation, il n'y a pas du tout de choses de ce niveau-là. En revanche, l'Europe là, est en train de réfléchir et de légiférer sur... en tout cas, il y a des propositions de résolution de la Commission européenne qui ont été rédigées au cours de l'année dernière et qui sont en train d'être passées devant la Commission pour réglementer et réguler les systèmes d'intelligence artificielle. Voilà, en décrivant des types de systèmes qui seront strictement interdits, des systèmes qui seront considérés comme des systèmes à haut risque et pour lesquels toute personne qui en utilisera ou qui en commercialisera devra prendre d'importantes assurances. Et puis après, tout le reste qui sont des systèmes, voilà, plus autorisés et qui sont plutôt soumis aux régulations classiques, hein, sur les objets défectueux. Voilà, mais c'est vraiment encore un embryon. Les juristes qui travaillent sur le sujet sont quand même encore en désaccord quant à la hiérarchie des choses, au choix de qu'est-ce qu'on met dans chacune des catégories que je viens de vous citer. Et ça, ce sont des débats qui sont pas des débats d'informaticiens ou pas des débats de chercheurs en informatique. C'est, à mon avis, des débats plus généraux. que tout un chacun peut tenter de prendre. Alors c'est, voilà, si ça vous intéresse, hein, l'ensemble des textes est disponible sur le site de la, du Parlement européen, voilà, dans différentes langues. Bon, c'est du jargon juridique, hein, c'est pas forcément le plus excitant à lire, mais bon, les éléments sont là en tout cas.
Pour parler un peu de la recherche sur le sujet, où en est la France ? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à l'intelligence artificielle ?
Oui. Parce que ce que je vous disais, en tout cas, 30% des chercheurs en informatique en France, c'était plutôt le chiffre que j'avais, peuvent se revendiquer plutôt l'intelligence artificielle. Un certain nombre de grandes réalisations en fait de l'IA sont aussi des réalisations françaises, hein, je pense par exemple aux travaux autour du langage de programmation Prolog. Voilà, qui est un langage de programmation logique pour de l'intelligence artificielle, hein, qui est très, très, très connu. Les travaux de Yann Lequin, qui était chercheur en France et qui faisait partie des premiers à avoir développé des systèmes d'apprentissage profond. Il y a des travaux en algorithmique des jeux, voilà, qui sont très, très, très connus en France. Donc voilà, on a beaucoup de chercheurs en informatique, voilà, qui ont beaucoup contribué. Et donc voilà, la France fait partie des grandes puissances scientifiques, même si je pense que son rang a été un peu déclassé ces dernières années.
Récemment, l'université de Caen a annoncé une enveloppe de 5 millions d'euros pour former des chercheurs en IA. C'est vraiment important pour vous que la région et les universités développent et mettent un peu de l'argent sur la table pour développer ce genre d'innovation.
Alors... oui et non, parce que oui, on est toujours content en tant que chercheur de pouvoir avoir des financements pour pouvoir développer des formations, même faire des formations pluridisciplinaires, c'est des choses qui intellectuellement sont vraiment intéressantes. Après, on peut s'interroger ou se questionner, hein, sur les mécanismes de mise en place, et là, c'est pas des problématiques de recherche, hein, c'est des problématiques politiques. Voilà, ce sont des financements pour des contrats d'enseignement à court terme, ça oriente la politique scientifique de l'établissement et donc ça se fait sans doute au détriment de d'autres disciplines. Voilà, donc c'est des choix politiques avant tout, et donc voilà, que je peux commenter à titre personnel.
Oui, bon.
Voilà, mais scientifiquement ça ne change pas forcément grand chose.
Qu'est-ce qu'a besoin la recherche en ce moment pour innover? En tout cas, de votre côté, dans votre domaine.
Ah bah, il faut essentiellement pour pouvoir produire de la science, il faut essentiellement avoir du temps pour pouvoir le faire. Voilà, la question du temps est vraiment importante. Plus les chercheurs et enseignants chercheurs sont peu nombreux, plus ils doivent réaliser de nombreuses tâches en parallèle et moins ils ont de temps à consacrer. Effectivement à chacune d'entre elles, et ça c'est un phénomène qu'on voit voilà, régulièrement. Ouais. Le nombre d'étudiants augmente, le nombre d'enseignants n'augmente pas à la même vitesse, et donc forcément ça peut provoquer des décrochages.
Pour parler un peu du futur, question un peu vaste aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle dans le futur? À quel point ça va influencer notre quotidien, notre avenir?
J'avoue que j'aime pas trop essayer de faire de prédictions. C'est toujours un risque de dire d'énormes bêtises qui sont ensuite démenties par la réalité. Et donc non, je voudrais pas vraiment prédire quoi que ce soit là-dessus. Hein. Il faut
laissons le futur décider.
Oui, voilà. il faut attendre. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des questions de régulation, de mise en place, de qu'est-ce qu'on fait avec ces outils, quel impact ils vont avoir en termes de démocratisation ou de leur utilisation. Hein. On voit par exemple surtout les questions qui se posent par exemple pour les illustrateurs et les créatifs, avec l'avènement des systèmes de génération automatisée d'images. Ça pose vraiment des vrais problèmes concrets à ces personnes, voilà, qui vivent et qui essayent de vivre de ça. Voilà, c'est plutôt à ce type de questions qu'il faut répondre en fait dans les médias. je pense en termes
Le problème immédiat est pas pour l'instant c'est les innovations qui vont arriver dans le futur oui sont pas voilà actuelles, donc
ouais. On les découvrira je pense bien assez tôt et c'est très difficile de dire en fait à un moment donné quand en tout cas en tant que chercheur qu'on produit de la science on va je sais pas trouver un algorithme ou montrer certaines propriétés de ces algorithmes là qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Est-ce que quelqu'un d'autre s'en servira et s'en servira mieux pour faire autre chose? Est-ce que quelqu'un va reprendre des éléments pour pouvoir faire une application? Ça, c'est des choses en fait qu'on maîtrise très très peu et combien de fois, moi-même ou des collègues, pouvons être surpris de croiser des gens qui nous disent ah oui, mais j'ai vu ou j'ai utilisé telle chose. Ah bon? Voilà. Non. Donc ça, c'est très difficile à prédire, à prévoir.
On verra dans le futur. Alors, merci beaucoup Grégory Bonnet d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université de Caen et membre du GREC au sein de l'équipe MAD. Bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. On se rend au Dôme d'abord le samedi 21 janvier à 14h pour participer à l'atelier Papier Connecté, une suite d'ateliers qui associe littérature et numérique autour des auteurs les plus célèbres. Ce week-end, c'est Jules Verne qui sera le sujet de l'atelier. Grâce à vos téléphones et des puces NFC, vous pourrez créer un livre interactif avec des vidéos, des images, des sons et des textes. Vous pouvez retrouver les infos et les inscriptions sur le site du Dôme, ledôme.info. Une recommandation reportage pour terminer, la guerre de Troie a-t-elle réellement existé? L'archéologue allemand Heinrich Schliemann avait fait des recherches sur le sujet à la fin du 19e siècle dans la colline d'Isserlik. Des chercheurs et des archéologues ont continué sa quête et ses fouilles pour savoir si cet événement mythique raconté dans l'Iliade du poète Homère s'est réellement produit. La guerre de Troie a bien eu lieu, c'est ce jeudi 19 janvier à 21h sur France 5. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur Phoenix FM. Merci à Emmanuel qui a réalisé cette émission. Pardon. On se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, c'est Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.